À la suite de la suspension de l'Assemblée, donc en octobre 2002, les différents partis politiques n'ont plus réussi à s'entendre pour travailler ensemble au sein du gouvernement de partage du pouvoir prévu par les accords de 1998. Et en particulier, les unionistes refusent de siéger de nouveau au sein du gouvernement de partage du pouvoir tant que l'IRA n'aura pas complètement désarmé. Et en particulier, tant que le Sinn Féin, donc branche politique de l'IRA, n'aura pas fait en sorte que l'IRA désarme complètement. Donc, des résultats des élections vont dépendre, en fait, la suite du gouvernement du partage du pouvoir.
Et finalement, qu'est-ce qui gêne les unionistes contraires à ces accords ?
Les unionistes sont effrayés de la possibilité de la reprise d'hostilité de la part de l'IRA, en fait. Ce qui, bon, est une crainte qui est en partie fondée, parce que c'est vrai que l'IRA a un arsenal assez important, mais en même temps, bon, elle maintient un cessez-le-feu qui est quand même assez stable depuis 1997, tandis que de leur côté, les paramilitaires protestants, eux, n'ont pas encore désarmé du tout.
Mais il y a aussi les plus radicaux qui refusent purement et simplement un partage du pouvoir entre protestants et catholiques.
Bien entendu, il y a notamment le principal parti radical protestant qui est le DUP, c'est-à-dire le Parti démocratique d'Ulster, dont le leader est Ian Paisley, qui est une grande figure de l'unionisme protestant, qui refuse le partage du pouvoir avec les catholiques nationalistes et qui veut, lui, renégocier un accord. Donc, en fait, il veut complètement détruire les accords de 1998.
Est-ce qu'on peut redouter un retour à la case départ, en quelque sorte?
C'est vrai que le radicalisme de Ian Paisley n'augure rien de bon de ce côté. Donc on a cette évolution du côté protestant qui fait que l'unionisme plus radical remet en cause, et d'ailleurs a toujours été plus ou moins opposé à ces accords de 1998. Et du côté nationaliste, il y a la crainte aussi d'une poussée du Sinn Féin, donc de la branche politique de l'IRA, qui deviendrait le premier parti nationaliste devant le SDLP, donc parti nationaliste modéré de John Hume, qui lui était plutôt donc favorable à ces accords.
Il faut reconnaître quand même que les 5 dernières années ont tout de même été relativement calmes.
Tout à fait. Il y a eu un véritable changement qui est très palpable dans la province, avec notamment une diminution très sensible du taux d'activité paramilitaire, en particulier de toute l'activité la plus visible, c'est-à-dire les bombes, les attentats, etc. Bon, c'est vrai qu'il reste beaucoup d'affrontements, de pratiques sectaires, notamment dans les quartiers les plus populaires des grandes villes, donc notamment Belfast et Derry. Mais c'est vrai que la vie dans la province s'est considérablement pacifiée. Les rapports entre les individus sont quand même bien meilleurs qu'ils n'étaient à une période. Mais bon, il faut pas se leurrer non plus, la société reste profondément divisée selon des lignes communautaires, en particulier dans les classes les plus populaires.
Comment faut-il évaluer le danger représenté par l'IRA véritable dont on parle tant ?
Bon, c'est un groupuscule qui est né donc du refus des accords de 1998, donc c'est une branche dissidente de l'IRA qui compte assez peu de membres, mais qui paradoxalement est assez dangereuse puisqu'elle compte parmi les membres les plus actifs de l'ancienne IRA et notamment certains artificiers de l'IRA. Le risque qu'elle peut représenter est à corréler avec la réussite ou non de la poursuite du partage du pouvoir. C'est-à-dire que si les institutions de 1998 sont remises en cause, on peut avoir la crainte que les nationalistes soient mécontents et que donc d'autres individus viennent grossir les rangs de l'IRA véritable et donc légitimer la reprise d'attentats, etc.
Vous disiez tout à l'heure que les quartiers populaires restent les quartiers où les tensions sont plus fortes. Pourquoi ?
Comme toujours en Irlande du Nord, les extrêmes sont nourris par la pauvreté, par le désespoir social, etc. C'est pour ça que le conflit, c'est surtout un conflit présent dans les classes populaires. Et donc l'un des enjeux, ça va être que les électeurs des classes moyennes et supérieures aillent voter.